France Musique. Musique et moi, une émission en partenariat avec le magazine Grazia.
Musique et moi.
Cyril Dion.
Elsa Boublil.
Ce monde de rosé est un monde de rosé, pourtant et pourtant.
Haïku dit ça. C'est avec cet extrait de la bande originale du film « Demain » que vous avez signé avec Mélanie Laurent, Cyril Dion, que nous vous accueillons. Une musique très champêtre, l'impression d'entendre des bourdons voler, la nature à l'œuvre, car ce film montrait les actions positives contre le réchauffement climatique. Bonjour Cyril Dion.
Bonjour Elsa Boublil.
C'est cette impression-là que m'a laissé cette musique, une musique d'espoir finalement. On se dit que tout reste possible.
Ouais, en fait c'est une musique qui était sur la séquence à Todd Morden. Des incroyables comestibles. Donc ces gens qui essaient de faire des potagers en pleine rue. Mmh. Et donc effectivement, c'était exactement l'idée de Frédérica Stahl qui a composé.
La compositrice.
C'est de faire les petits bourdons, les petites fleurs, les et puis de raconter quelque chose de ce monde qui est très beau, de solidarité, de gens qui se retrouvent autour des buissons de framboises.
Vous êtes poète, réalisateur, auteur. D'ailleurs, votre roman Imago vient d'être republié en poche chez Babel. Vous êtes cofondateur avec Pierre Rabhi du mouvement des Colibris, directeur de collection chez Actes Sud. En fait, tout ce qui peut contribuer à faire prendre conscience de la nécessité de changer de paradigme pour sauver notre planète vous semble utile et visiblement jamais de trop, quitte à être surbooké.
Si, il y a eu du trop. Et puis il y a eu du trop. à plusieurs moments dans ma vie. J'ai fait un burn-out notamment en 2012 parce qu'il y avait, trop de trop.
Donc là, vous avez réussi un peu à calmer le jeu ?
Ben, j'avais réussi pendant un moment et puis ma maladie me reprend.
Ouais, c'est ce qui me semblait, puisque en tout cas, vous écrivez toujours beaucoup, vous militez, vous avez réalisé le clip, le dernier clip d'Émilie Loiseau, me semble-t-il. Vous agissez beaucoup, vous essayez de vous faire entendre votre voix. Votre dernier ouvrage, Le Petit Manuel de Résistance Contemporaine, publié chez Actes Sud, est une invitation citoyenne, j'ai envie de dire, pour continuer de réfléchir à comment sauver notre planète. Bref, ce haïku dit ça semble bien sonner avec tout ce que je viens de dire.
J'adore ce haïku parce qu'il y a tout dedans. C'est-à-dire quand il dit ce monde de rosée est un monde de rosée, ça dit toute la pureté, toute la beauté de ce monde. Quand on regarde, hier j'étais avec ma fille à l'aquarium du Trocadéro et on regardait les méduses et on regardait à quel point c'était de la dentelle et à quel point le vivant est extraordinaire. Quand on regarde j'avais lu ça dans le livre d'Éric Vuillard aussi, Tristesse de la Terre. La dernière partie, c'est sur les flocons de neige. Et il raconte, en fait, cette expérience qui a été faite où ils ont été regardés des flocons au microscope. Et c'est ahurissant. Là aussi, la dentelle, à quel point c'est ciselé, c'est magnifique, c'est symétrique. Donc il y a tout ça dans ce monde, toute cette beauté, toute cette pureté, toute cette intelligence. Pourtant et pourtant. Mmh. Et dans ce pourtant et pourtant, il y a tout. Il y a les guerres, il y a la destruction de la nature, du climat, il y a
et votre inquiétude, hein, bien sûr aussi.
Oui, bah ouais, qui naît de là, c'est-à-dire qu'on a, d'une certaine manière, on a tout entre les mains pour vivre une vie extraordinaire sur cette planète qui est quand même une sorte de havre de paix dans un désert sidéral immense. Pourtant.
On a une heure et demie pour évoquer votre parcours, votre cheminement, peut-être. Prendre espoir, garder espoir en tout cas que le monde soit possible encore demain avec ces musiques qui vous ont accompagné et qui vont nous accompagner jusqu'à midi et demi sur France Musique. L'invité de Musique et moi est Cyril Dion. La fantaisie pour piano à quatre mains en fa mineur, opus 103 de Franz Schubert, interprété par Anne Kefelek et Imogen Cooper. C'était mon choix pour vous accueillir, puisque vous disiez n'avoir pas de souvenirs précis de votre enfance en musique, sauf peut-être la voiture et le piano. Je me suis dit, ça devait bien accompagner vos voyages.
Et en fait, je me souviens de ce morceau plus tard, parce que je l'ai beaucoup écouté plus grand. Mais c'est vrai que la musique classique a toujours été là, parce que mon père est un dingo de jazz et de classique, ce qui a quand même contribué à me faire aimer beaucoup d'autres musiques plus tard. Et donc, j'ai toujours baigné là-dedans. Et donc, j'ai effectivement des souvenirs en voiture, des radiocassettes et... de longues plages de musique classique et beaucoup de piano, puisque mon grand-père, lui, jouait toutes les sonates de Beethoven au piano et tout ça. C'était son truc. Il était militaire et quand il revenait pour
il
se détendre, voilà, exactement. Il jouait sonate au clair de lune et compagnie au piano. Et mon père, lui, ça lui était beaucoup resté. Donc j'ai commencé à intégrer ça, à ingérer la musique classique comme ça, un peu contre mon gré.
Ça accompagnait bien les voyages en voiture Quels souvenirs vous en gardez? Ce sont des souvenirs doux?
Ouais, assez doux. Moi, je trouve que la musique classique, ça ouvre l'imaginaire. Hein. Contrairement à d'autres musiques où on a tendance à plaquer quelque chose, on a plaqué des paroles, un texte ou une rythmique très imposée. Alors que là, il y a c'est propice à une forme de rêverie et puis d'introspection et de se laisser, finalement, de se laisser envahir par ça et de pas chercher à y mettre un sens particulier.
Cette fantaisie en fa, par exemple, que vous avez beaucoup écoutée, vous savez pourquoi vous l'écoutiez?
Ouais, en fait, moi, j'écoutais beaucoup, beaucoup de musique classique pour écrire à une époque. Je le fais moins maintenant, mais à une époque, j'avais besoin de me déclencher, quoi. C'est toujours un peu mystérieux de savoir comment on arrive à écrire, comment on arrive à se concentrer pour créer quelque chose. Donc il y a plein de techniques différentes. D'ailleurs, moi, j'aime bien parler en général avec les artistes ou les écrivains pour essayer de comprendre comment ils arrivent à se concentrer. Et à une époque, ce qui me concentrait, c'était ça. C'était la musique et particulièrement le piano.
Nous, on va essayer de savoir ce qui vous aide à vous concentrer. Quelle musique vous aide à créer, Cyril Lion, ce matin? Vous avez grandi au Vésinet, dans les Yvelines, avec quel genre de famille?
J'étais dans une famille plutôt bourgeoise. Bourgeoisie de province à l'origine. Mes grands-parents viennent de Charente, Charente-Maritime.
Dont un grand-père donc militaire.
Voilà, un grand-père militaire. Mes autres grands-parents viennent de Belgique, de Wallonie. Et mes parents, mon père voulait être diplomate, voulait faire de la politique. Et puis ma mère voulait pas voyager, donc il a fini par faire de la banque. Et ma mère travaillait pas quand j'étais petit, et puis elle s'est mise à travailler quand mes parents ont divorcé, quand j'avais 12 ans.
Donc après, c'est une autre vie qui commence, j'imagine.
Ouais, bah oui, en général, quand les parents divorcent, c'est une autre vie qui commence, ouais.
Mmh. Mmh. Et la rupture, peut-être, avec la musique classique et le jazz, c'est peut-être faite à ce moment-là.
Peut-être, oui.
Ouais.
Und reinste Treu am Pranger steht dabei. Und kleine Nullen sich im Aufwind blähen. Und Talmi Ehre hebt man auf den Thron. Und Tugend wird zur Hure frech gemacht.
Wahre Redlichkeit bedeckt mit Hohn und Kraft durch lahme Herrschaft umgebracht. Und Kunst das Mal gestoppt von Apparat und Dummheit im Talare. Warum schreckt?
Oh, und schlichte Wahrheit nennt man Einfalt glatt. Oh, und Gutes, Schlechtes dämmt die Stiefel leckt. All dessen Mut möchte ich gestorben sein.
Beste treu am Pranger steht dabei. Und kleine Nullen sich im Aufwind blähen. Und teil mir Ehre, hebt man auf den Thron. Und Tugend wird zur Hure frech gemacht.
Und wahre Redlichkeit bedeckt mit Hohn. Und Kraft durch lahme Herrschaft umgebracht. Und Kunst das Maul gestopft vom Apparat. Im Talar Erfahrung checkt.
Oh, und schlichte Wahrheit nennt mal Einfalt glatt. Oh, und Gutes, Schlechtes dämmt die Stiefel leckt. All dessen nüt möchte ich gestorben sein. Blieb nicht mein Liebster. Wenn ich sterb, allein.
All dessen Mühe, erst im Tod ich schau.
Un extrait du Sonnet 66 de Shakespeare, interprété par Rufus Wainwright. Alors voilà un compositeur intéressant, puisque lui, il va au plus loin, dans, à la fois dans le répertoire et dans toutes les musiques possibles. On est dans du cabaret, Cyril Dion. Je parlais de la rupture avec votre père, mais je me suis dit, tiens, ça c'est le genre de musique qui a dû vous rapprocher d'une certaine manière de ce qui vous avait éloigné de votre père.
Bah, plus tard, oui, parce qu'effectivement, lui, il est compositeur plutôt pop à l'origine. Oui. Mais il a composé du jazz, et alors ça a été un échange avec mon père, effectivement. Il a refait le spectacle que Judy Garland avait fait au Carnegie Hall, qui était Judy, 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 et donc lui, il a fait Rufus, 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 et qui était du jazz vocal, et qui était un endroit où on pouvait se retrouver avec mon père. C'est-à-dire, quand je suis retourné au jazz, c'était plutôt par là, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, et puis après Eric Connick Jr., et tout ça. Et puis, Rufus compose aussi des opéras. Là, il vient de sortir son deuxième opéra. Il fait effectivement des choses un peu cabaret, il fait du folk, bon. Et j'adore, en tout cas, cet éclectisme-là, qui ne borne pas la musique à des frontières étanches, et au contraire, qui explore tout, et c'est super. Et moi, maintenant, au grand âge que j'ai atteint, je commence à être là, c'est-à-dire à pouvoir explorer plein de trucs, même à écouter la musique qu'écoutent mes enfants, ce qui n'est pas toujours facile.
Oui, mais c'est ça, c'est la prise de conscience avec un compositeur comme Rufus Wainwright que, en fait, d'autres choses sont possibles aussi.
Oui, absolument. Je pense qu'on a ça dans tous les arts. Ça m'a fait la même chose quand j'ai lu James Joyce pour la première fois. Je me suis dit, mais on a le droit d'écrire comme ça. Mm. On a le droit d'écrire comme il écrit dans Ulysse, ou ça fait ça quand on lit Rimbaud. Et quand on voit Rufus, on a le droit de faire ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir été le voir en concert. C'est-à-dire qu'il est incroyable, lui. Il trace une espèce d'espace autour de lui et puis il dit « living room area ». C'est comme si on était dans son salon. Et donc, il s'autorise à s'arrêter, à recommencer. À un moment, il jouait un morceau de son opéra. Je me souviens, c'était « La cité de la musique ». Il commence et il fait « ah, j'étais sûr que j'allais me planter ». Et il recommence. Il recommence en accéléré en faisant « hein, oui, c'est ça, hop ». Et il recommence le morceau à vitesse réelle. Personne fait ça. Et pourtant, c'est délicieux.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
On en revient à l'adolescence, si vous le voulez bien, Cyril Dion. Une adolescence donc difficile, si j'ai bien compris. En tout cas, une rupture parentale qui provoque une rupture peut-être chez vous.
Oui, bah effectivement, je pense que c'est difficile pour tous les enfants quand leurs parents se séparent. Moi, ça s'est pas hyper bien passé, de surcroît. Et je suis passé par plusieurs phases. Une phase plus religieuse, où j'étais enfant de cœur quand j'étais à partir de 10 ans jusqu'à 15 ans. Donc j'étais dans une espèce de recherche un peu mystique et tout ça. Et puis,
c'était vraiment de votre fait?
Oui et non. C'est-à-dire que c'était plutôt une affaire de contexte. C'est-à-dire que j'étais dans un contexte au Vésinet où j'avais plein de copains qui étaient catholiques, enfants de cœur, etc. Mes parents n'allaient pas du tout à la messe, c'était pas particulièrement croyant. Mais donc j'allais là-bas parce que j'avais des copains là-bas. Et ça a commencé à m'interroger, à me travailler. qu'est-ce qu'on fait là? Ah bon, si on a été créé par Dieu, mais qui a créé Dieu? Alors, mais si la vie est arrivée sur Terre, pourquoi elle n'est pas arrivée sur d'autres planètes? Et donc, tout ça s'est mis à m'interroger sur le sens de l'existence beaucoup. Et puis, beaucoup de sport, ce qui m'a fait tenir. Et en revanche, après, voilà, j'ai fait une crise d'adolescence un peu plus tardive. À partir de 15-16 ans, là, c'était plus compliqué, ouais. Je partais par la fenêtre, c'était plus...
Fugues.
C'était pas des fugues, non, mais ma mère voulait pas que je sorte, donc je sortais quand même, ouais.
On appelle ça des murs. C'est pas à ce moment-là que vous écoutiez le concerto numéro 12 en la majeure de Mozart?
Je crois pas, non.
Thank you.
Fazil Say interprète avec l'orchestre de chambre de Zurich le concerto numéro 12 en La majeure, que chez le 414 de Mozart dans son Andante. Et c'est Howard Griffiths qui dirigeait l'orchestre de chambre de Zurich. On disait que vous n'aviez pas 15-16 ans, Cyril Dion, mais enfin, c'était pas longtemps après que vous avez écouté ce concerto. C'est-à-dire que juste au sortir de l'adolescence, vous avez plongé dans ce concerto de Mozart.
Oui, j'écoutais tout ce disque-là. J'avais une version qui a été au Festival Marlboro. Je ne sais pas pourquoi il y avait un Festival Marlboro, mais j'écoutais tout ce disque de Mozart régulièrement, comme je le disais tout à l'heure, pour écrire. À l'époque, j'étais apprenti comédien et j'écrivais des romans pathétiques. Voilà.
C'est-à-dire, c'est votre propre jugement.
Oh, non, j'ai quand même eu quelques lecteurs qui ont confirmé ce jugement.
C'est-à-dire, c'était une nécessité d'écrire, c'était en fait, le désir de devenir écrivain.
Oui, moi je veux être écrivain depuis que j'ai 12-13 ans.
Pourquoi ?
Je sais pas. J'adorais lire. Je pense que la lecture m'a sauvé à un moment, en même temps que le sport.
Donc vers ses 15 ans, là, 14-15 ans.
Ouais, même avant, hein, je pense, parce que ça allait pas trop, mes parents, déjà, depuis que j'étais petit. Enfin, c'était pas très rigolo, déjà au départ, mais la lecture a tout de suite été un endroit où je pouvais me réfugier, d'une part, et puis un endroit d'où je pouvais comprendre le monde de l'intérieur sans que ça passe par des discussions pénibles ou embarrassantes ou qui me mettent mal à l'aise, qui angoissent et tout ça. Et donc, assez rapidement, l'écriture est devenue un moyen d'expression nécessaire, presque un peu vital, pour pouvoir tenir. Donc, à la fois, en essayant de faire de la prose. Donc, à 13 ans, j'essayais de pasticher des romans policiers. Et c'était, là aussi, assez terrible. Il y a notamment une phrase que ma femme adore répéter, parce que j'avais écrit « Elle gisait pendue ». Parce que je pensais que geyser, ça voulait dire être mort. J'ai pas compris qu'il y avait un truc qui n'était physiquement pas possible à vrai dire. Et donc ma prof de latin a corrigé mes petits carnets gentiment en me disant « Ah non, ça n'existe pas tout ça ». Et puis j'ai commencé à écrire de la poésie vers 16-17 ans. Et quand j'étais apprenti comédien, j'ai décidé de commencer à écrire des romans sérieux. Et au début, c'était pas bien, mais bon, en même temps, on est obligé de... C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme
on dit. Et cette andante-là, il vous mettait dans quel état? Parce que...
C'était la... Je me souviens très bien, en plus, des passages que j'écrivais, c'était un couple qui vivait dans les bois. Donc ça me mettait dans une espèce de... d'état contemplatif où je cherchais cette émotion qu'on a quand on est au cœur de la nature, dans une espèce de simplicité, d'essentiel. Et ça me ramenait un peu à ça.
Donc ce rapport à la nature, il est quand même très très ancien, Cyril Dion. Il est, en tout cas, si le premier roman était une plongée dans la nature et dans les arbres, c'est que ça vous poursuit depuis longue date.
Oui. Bah, là où je suis né, dans les Yvelines, il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres. Et c'est vrai que j'ai vécu toujours au contact de ça, beaucoup dehors, beaucoup au milieu des arbres. Et donc j'ai toujours besoin de ça. C'est vraiment le, comme Jim Harrison a écrit ça aussi en disant que quand il était trop angoissé, quand il allait trop mal, il allait marcher dans les bois pendant 2 heures, il avait l'impression que les arbres absorbaient son angoisse, ses chagrins, etc. Et moi, ça m'a toujours fait ça.
Et ça diminue le sentiment d'inaction face au monde?
En tout cas, ça reconnecte à quelque chose qui fait qu'on n'est plus dans une espèce de tentative d'agir, même d'impuissance parfois. On est dans une forme de présence au monde qui est beaucoup plus rassurante, je trouve.
Thank you.
L'Allegro con brio de la symphonie numéro 7 en La majeur, opus 92 de Ludwig von Beethoven, interprété par le West Eastern Divan Orchestra sous la direction de Daniel Barenboim. Daniel Barenboim, pour vous, Cyril Dion, parce que je crois que c'est un interprète que vous aimez, mais en fait vous préférez le pianiste au chef d'orchestre, ou du moins vous connaissez mieux le pianiste.
Oui, c'est aussi parce que j'ai moins de goût pour ce genre de pièces-là, quoi.
D'accord. C'est moins votre. Mais c'était c'est aussi parce que là, il dirige cet orchestre de paix, de réconciliation. Absolument. Entre la Palestine et Israël. C'est une action pour le rapprochement qui est extraordinaire. Mmh. Et la musique, comme ambassadeur de la paix, c'est quand même une grande force. Parce que vous, je crois que votre premier engagement était pour la cause palestinienne.
Pour le rapprochement entre les deux, en tout cas.
Ouais.
En 2003, j'ai organisé un congrès israélo-palestinien avec une fondation qui s'appelle Homme de Parole. Avec l'idée, le fondateur s'appelait Alain Michel, il avait une ONG humanitaire dans les années 80, du côté de Lyon, qui s'appelait Équilibre. Et il se disait, l'humanitaire, on est toujours en queue de comète, c'est-à-dire qu'on hérite de situations qui sont dramatiques, mais on n'a jamais la possibilité d'essayer d'agir en amont de ces conflits. Et d'une certaine manière, c'est sans fin. Il y aura toujours des populations qui seront dans des situations dramatiques. Donc avec cette fondation, il avait voulu essayer de remonter le fil de la causalité pour créer du dialogue interreligieux et interculturel. Et le conflit israélo-palestinien était central pour lui parce qu'il avait été notamment beaucoup intervenir à Gaza quand il y avait des gros blocus et que la situation humanitaire était terrible, beaucoup en Irak, avec la conscience que le conflit israélo-palestinien nourrit finalement l'instabilité de toute la région. Et comme il était assez tête brûlée et qu'il faisait pas forcément attention au CV, Je l'ai rencontré un jour, il m'a dit, voilà, je cherche un coordinateur pour un congrès. Je dis, ah ouais, ça a l'air vachement intéressant, t'as déjà fait ça? Non, jamais. Bon, bah viens, fais-le. Et donc, on a fait ce premier congrès qui nous a donné ensuite l'idée d'organiser le premier et le deuxième congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix, où on réunissait 400 leaders juifs et musulmans du monde entier. On les enfermait en gros pendant 4 jours dans un hôtel pour les obliger à se parler, avec l'idée que les religieux avaient complètement été exclus des processus de paix, notamment des accords d'Oslo. Et l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, nous disait « Je comprends pas pourquoi on a fait cette erreur-là, alors que Rabin s'est fait assassiner par un extrémiste religieux, que Arafat a refusé de signer les accords de tabac parce qu'il avait peur de se faire assassiner par un intégriste religieux de son côté aussi. » Donc d'une certaine manière, ils peuvent jouer un rôle de tampon, et s'ils avaient pu mobiliser leur communauté pour leur demander de soutenir ces accords, peut-être qu'on y serait parvenu. Donc ces congrès avaient cet objectif-là, de créer ce contexte favorable.
Alors ce genre d'orchestre, j'imagine, en tout cas la culture pour favoriser la paix, j'imagine que ça vous a évidemment aussi effleuré, Cyril Lion.
Complètement. Et effectivement, on a été en contact avec plein d'orchestres. Donc il y avait effectivement cette initiative de Daniel Barenboim qui était formidable. Il y en a eu d'autres. C'est un endroit de rapprochement extraordinaire. Nous, on l'a vu avec les... Par exemple, il y avait le vice-ministre de la justice de l'époque d'Israël qui était un des fondateurs du Chass, qui est le parti d'extrême droite en Israël. Donc a priori, ceux qui sont les plus anti-palestiniens, anti-musulmans, etc. Et un jour, comme ça, pendant le deuxième congrès, c'était à Séville, je le retrouve dans le lobby de l'hôtel avec des imams marocains en train de faire les chants comme ça, taper dans les mains. Et je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il me dit, mais j'ai grandi au Maroc, on a les mêmes prières, les mêmes chants, et puis la même cuisine, et puis j'ai... Et en fait, on se dit, mais c'est incroyable, ils ont la même culture. Et quand c'est vrai, quand ils sont sur ce terrain-là, tout d'un coup, toutes les querelles, toutes les haines, tout ça a tendance à se dissoudre.
Thank you.
Sabine Meyer interprétée avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abbado, l'Adagio du concerto en La majeur de Mozart, un andante qui compte pour vous, Cyril Dion, puisque on parlait de ces moments importants de la vie, ces moments clés. Là, on est au cœur de votre vie, je crois.
Oui, oui, c'était la musique qu'on avait choisie quand on s'est mariés.
Parce que ce mariage, c'est un moment, j'ai l'impression, où une fois de plus, votre vie bascule. Ou peut-être avant, la rencontre en tout cas avec
ouais,
votre épouse.
La rencontre avec Fanny, ouais, avec qui je vis depuis 20 ans, c'est clairement un basculement. Ouais. C'est-à-dire que je ne serais absolument pas la personne que je suis aujourd'hui si on ne s'était pas rencontrés. Et on a construit quelque chose à la fois dans nos parcours personnels et à la fois dans notre évolution en commun, qui est un truc précieux, enfin qui est une des choses qui compte le plus pour moi. Parce que on a réussi à faire à deux ce qu'on essaye de faire tout seul, c'est-à-dire d'évoluer tout au long de sa vie.
Et de s'accompagner.
Et de s'accompagner, exactement, tout en essayant de se laisser libre et tout en changeant, parce qu'en 20 ans, on change quand même. Et c'est fou, j'ai l'impression que ça, enfin, c'est passé comme ça. Et cette musique-là, c'était une musique qu'on adorait tous les deux, d'ailleurs. Moi, c'est Out of Africa, hein, aussi. Et c'est d'une pureté, enfin, c'est presque céleste, cette musique. C'est presque pas humain, tellement c'est beau.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
En effet, Cyril Dion, Fanny vous a accompagné depuis 20 ans et on parlait de ce moment où la vie bascule. J'avais envie de vous demander, cette prise de conscience par rapport à la planète, est-ce que c'est contingent de cette rencontre? Enfin, est-ce qu'elle vous a permis de pouvoir conscientiser cela et passer à l'action?
Pas elle directement, mais sa famille, en tout cas une partie de sa famille. D'ailleurs, c'est... son oncle, qui vient de mourir là il y a quelques jours, qui était agriculteur dans la Manche, et c'est la première fois que je me suis retrouvé dans une ferme, avec des animaux, avec des toilettes sèches, avec des vrais écolos. On en rigolait en pleurant un peu quand il est mort. Il m'a mis les deux mains dans le cul d'une vache quand même, hein, pour aller chercher une génisse. Et ça, moi, petit parisien des Yvelines, qui osait pas toucher un chien parce que c'était sale, tout ça... Ça a été un moment incroyable. C'est-à-dire que j'ai vraiment un peu découvert la vie, ouais.
L'air de la suite pour orchestre numéro 3 en ré majeur de Jean-Sébastien Bach par l'Orchestre français des jeunes sous la direction de Christophe Rousset. Vous parliez tout à l'heure, Cyril Dion, de Bach et Mozart. Ben, les voilà qui se sont suivis. Ce sont deux œuvres fondamentales pour vous, dont cet air de la suite pour orchestre numéro 3 en ré majeur, puisque après le mariage, ben, il y a le premier enfant.
Oui, je suis terriblement classique, c'est déprimant. Quand Fanny était enceinte de Pablo, donc qui est notre fils, on lui faisait écouter ce morceau dans le ventre. Donc on mettait c'était la version piano, c'était pas la version clavecin. On mettait le casque sur le ventre de Fanny et on lui faisait écouter cet air-là, je sais pas, presque tous les jours, je crois.
Ah oui. Pourquoi et vous avez choisi
Parce qu'on avait envie de l'initier à la musique. On faisait de l'aptonomie à ce moment-là, donc qui est une façon de rentrer en contact avec le bébé par le toucher. C'est notamment chouette pour le papa pour commencer à tisser une relation avec son bébé. Et donc ça, c'est une expérience folle pour nous qui ne portons pas les enfants. C'est quand même beau de vivre ça. Et donc, on avait poursuivi cette expérience-là avec la musique. Et on a eu une expérience plus tard, quand il est né, qui était assez bouleversante, parce que en première année de maternelle, donc il avait 3 ans, il avait un instituteur qui était aussi très musicien, qui leur faisait chanter des chansons, qui jouait de la guitare, qui avait une chorale et tout ça. Et le soir, il leur mettait de la musique pour ranger la classe. Mmh. Et il leur mettait Bach parce que, selon lui, ça aidait à ranger le cerveau aussi, à organiser le cerveau des enfants. Et un soir, Fanny va chercher Pablo à l'école et son instituteur, qui s'appelle Philippe, l'arrête et lui dit « Il faut que je vous parle parce que tous les soirs, quand on range la classe, quand je mets ce morceau-là, donc c'est pas toujours le même, mais quand je mets ce morceau-là, Pablo pleure. Mais il pleure d'émotion. Pas de tristesse, mais vraiment d'émotion. » Et donc Fanny se met à pleurer aussi, à avoir une émotion. Et il lui dit « Mais c'est le morceau qu'on lui faisait écouter dans le ventre pendant toute la grossesse. » Et en fait, ce truc était resté quelque part en lui. Et quand il le réentendait, alors je sais pas, parce qu'il était trop petit pour nous expliquer ce que ça lui faisait exactement, je pense que ça réveillait quelque chose en lui de ce moment intra-utérin. Et c'est extraordinaire de se dire que la musique peut vivre en nous à partir de ce moment-là, à partir du moment où on est un fœtus, où on est dans le ventre de nos mères.
Il n'est pas devenu musicien, à ce hasard?
Pas encore, non, il est basketteur pour l'instant.
Thank you.
nocturne numéro 3 en si majeur opus 9 de Chopin, interprété par Maria João Pires, qui est une interprète que vous aimez beaucoup, je crois, Cyril Dion, et à Barenboim et Pires au piano.
Ouais, pour les nocturnes de Chopin, en tout cas, ça c'est sûr. C'est une interprète que j'aime beaucoup, que m'a fait découvrir ma belle-sœur. En fait, ma femme est à moitié portugaise, ma belle-mère est portugaise. Et je ne la connaissais pas du tout, et je trouve qu'elle a une espèce de grâce. J'adore aussi quand elle interprète Mozart, qui fait qu'on redécouvre les morceaux. On a l'impression que c'est pas les mêmes morceaux. Elle va à la fois plus doucement, elle fait de la dentelle, ouais. Et j'aimerais bien pouvoir jouer du piano comme ça. Enfin, j'aimerais bien pouvoir jouer du piano tout court, mais encore plus comme ça.
La dentelle, ça fait deux fois que vous employez ce terme. C'était une fois pour évoquer la nature et là pour évoquer l'interprétation. Justement, j'avais envie un peu de revenir avec vous sur ce rapport à la nature grâce à l'oncle de votre femme, c'est ça?
Ouais.
Puisque il vous a mis les mains dans
le cul d'une vache.
Voilà. C'est difficile à raconter, mais
ça c'est facile. Oui. C'est dur de trouver des mots polis pour le dire. Oui. Il m'a fait véler.
Et ce contact-là qui a transformé votre vie, vous le disiez tout à l'heure, ça a été suffisamment grand pour vous faire déménager, pour engager cette envie de partager avec le monde la nécessité de prendre conscience du monde qui nous entoure, enfin.
Ça a été progressif, c'est-à-dire que ça a été une première expérience, après il y en a eu d'autres. Il y a eu la rencontre avec Pierre Rabhi aussi en 2006, il y a eu plein de choses.
Sans jamais vous engager dans la politique?
Non. M'a proposé plein de fois. J'essaye d'aider, d'accompagner plutôt. Mais moi, je tomberais malade si je faisais un métier comme ça. C'est un métier extraordinairement ingrat. J'aurais jamais voulu avoir cette vie-là.
Mais du coup, cet engagement progressif s'est quand même manifesté par un engagement citoyen. Donc forcément, ça se mélange toujours un peu, la politique. Et...
Mais en fait, moi, je pense qu'on devrait tous faire de la politique. C'est-à-dire faire de la politique au sens... s'intéresser au devenir de la cité. Il y a une expression populaire qui dit « si tu ne t'occupes pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de toi », et c'est vrai. C'est-à-dire que si on ne s'intéresse pas à ce qui est en train de se produire dans nos démocraties, à ce qui est en train de se produire en termes de lois, en termes de vie commune, bah ça va nous retomber sur le nez à un moment. Et cette société dans laquelle on vit, qui est une société qui est devenue très individualiste, où on se concentre sur notre bien-être, sur notre confort, sur essayer de s'en sortir tout seul, n'est pas tenable, puisqu'on fait partie d'un ensemble plus grand, on fait partie d'une société, mais on fait aussi partie d'un écosystème.
Ça engage à la peur du déclin d'un empire, en fait. Hein.
Oui, et puis ça nous oblige à repenser notre place à nous, à la fois dans la société, en tant que citoyen, qu'est-ce que ça veut dire qu'être citoyen, et notre place en tant qu'être humain dans la nature, à quoi on sert, à quoi notre espèce sert dans les écosystèmes. On ne sert pas que à détruire, j'espère.
Moult civilisations, en tout cas, ont déjà disparu à cause de cet individualisme que vous dénoncez, je crois.
Oh!
Le duo Corneli et Sextus de Giulio Cesare in Egitto de Handel, interprété par Philippe Jarouski et Nathalie Stutzmann avec l'Orfeo 55. C'est, bien sûr, je faisais l'allusion aux chutes d'Empire Cyril Dion, mais d'abord parce que c'est vraiment un sujet que vous abordez régulièrement, mais également parce que cette musique-là compte parmi les musiques que vous avez appris à aimer.
Oui. En fait, là, pour le coup, c'est Fanny, ma femme, qui m'a un peu initié à ça. C'est-à-dire que moi qui suis plutôt rock, folk, tout ça.
On l'a pas remarqué ce matin.
Pas du tout, non, je me suis tenu à l'exercice. Elle écoutait ce morceau en boucle, tout le temps. Et au départ, je trouvais ça un peu raide. Et puis, au fur et à mesure du temps, et c'est ça qui est beau, je trouve, avec la musique, c'est le moment où on entend que c'est beau. Mmh. On n'avait pas entendu, et tout d'un coup, on entend. Et ça m'a fait ça. Et c'est vrai que c'est assez stupéfiant. Le fait qu'ils inversent les voix comme ça, que lui fasse le rôle féminin, qu'elle fasse le rôle masculin, que ses voix se marient aussi.
C'est le champ de séparation entre la mère et son fils. Donc effectivement, les voix graves et aiguës s'enchevêtrent, quoi.
Et exactement. Et c'est en fait bouleversant et c'est absolument sublime.
Cette musique qu'on apprend à aimer avec le temps, j'ai envie de filer la métaphore avec cette nature que l'on apprend à aimer aussi avec le temps, en tout cas en vous lisant et en étant un peu attentif à notre entourage. J'avais envie de vous demander, avant de vous quitter, comment rester optimiste. Ça va être difficile en quelques minutes de l'évoquer, mais évidemment, ce qui est bien quand on vous lit, c'est que même si c'est désespérant, on se dit qu'il y a des possibilités.
Oui, il y a des possibilités.
Des issues.
Honnêtement, on est dans une situation extraordinairement grave. La trajectoire qu'on est en train d'emprunter là sur le climat, c'est les scientifiques disent plus 5,5 degrés à la fin du siècle. Pour donner une idée très rapide, puisqu'il faut être rapide, il y a des scientifiques qui pensent, qui ont fait des modélisations, notamment le patron de l'Institut de recherche climatique de Potsdam, qui pensent qu'à plus 5 degrés, on peut être seulement 1 milliard sur cette planète. Mmh. Donc ça veut dire qu'une grande partie de l'humanité pourrait disparaître si on continue sur cette trajectoire-là. On est en train de perdre les espèces vivantes à une vitesse folle. La dernière fois qu'il y a autant d'espèces vivantes qui ont disparu aussi vite, c'était à l'époque des dinosaures. Donc on pourrait céder à la désespérance en se disant « qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ?» Ce qui me semble, c'est que cette situation, qui est une situation de potentiel effondrement, elle nous confronte à l'idée de la mort, qui est une idée avec laquelle on est obligé de vivre, nous, en tant qu'êtres humains. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle qui nous sépare de la mort, donc de notre mort personnelle, mais aussi potentiellement d'une forme d'effondrement de nos civilisations. Moi, j'ai l'impression que ça nous invite à chercher plus de sens, à trouver plus d'intensité, à chercher comment être utile, à nous réinventer, à comprendre, encore une fois, des choses qu'on ne serait pas amené à se demander si on n'était pas dans cette situation-là. Moi, une des choses qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est de comprendre à quoi sert l'être humain. Quand on regarde les écosystèmes, tout se tient. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'interdépendance où chaque espèce est utile à tout l'ensemble du système et forme un ensemble harmonieux, cohérent. Nous, on arrive là-dedans et on est la seule espèce qui décide de tout chambouler et de ne pas suivre la règle, entre
guillemets. La règle de la nature.
Exactement, et d'imposer notre propre règle. Et ça nous amène dans une situation de mort potentielle. Donc, c'est une opportunité formidable de comprendre, de trouver la formule d'une certaine manière. C'est-à-dire, se dire, qu'est-ce que le règne humain apporte par rapport au règne animal, végétal, minéral, qu'il est le seul à pouvoir apporter, mais qui puisse se mettre en interaction positive avec le reste. Et donc là, il y a plein d'initiatives qui sont formidables. Moi, j'ai la chance de rencontrer des gens qui font des choses passionnantes, formidables, utiles, novatrices, très souvent. Donc ça redonne de l'énergie. Et j'ai l'impression que c'est vers ça qu'on a besoin de s'engager, chacun d'entre nous, de trouver la chose qui nous passionne, la chose pour laquelle on est utile, et de le faire.
On va essayer de le faire, Cyril Dion. J'invite les auditeurs à lire votre petit manuel de résistance contemporaine paru chez Actes Sud, qui est une bonne piste pour démarrer. Et puis, on va se quitter avec, vous parlez de vos goûts pour le rock, ces musiques alternatives. Voilà des interprètes sur ce disque avec l'ensemble Baum. Voilà des interprètes qui naviguent depuis longtemps et avec beaucoup d'adresse dans les répertoires à la fois rock, jazz et puis mélodie française. On va écouter Pierce Faccini qui interprète interprète en sourdine de Gabriel Fauré. Voilà, beaucoup de talent pour terminer cette émission.
Un bon ami à moi.
Eh ben oui, qui pratique ce que vous recommandez de faire depuis fort longtemps, je crois.
Ceinture noire en permaculture, notamment.
Voilà, dans les Cévennes, s'il n'a pas déménagé.
Tout à fait.
À très bientôt, Cyril Dion. Merci beaucoup.
À bientôt.
Calme dans le demi-jour que les branches hautes font. Pénétrons bien notre amour de ce silence profond. Mêlons nos âmes, nos cœurs et nos sens extasiés. Parmi les vagues langues des pins et des arbousiers, ferme tes yeux.
En sourdine de Gabriel Fauré, interprété par Pierce Faccini et l'ensemble Baum, pour terminer cette émission en compagnie de Cyril Dion, qui était l'invité de Musique et Moi ce matin. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et Moi. Un grand merci à Manu Couturier qui était à la prise de son ce matin, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Je vous souhaite un très beau dimanche et une très belle semaine à l'écoute de France Musique. À dimanche prochain, 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.